En fait, j'ai l'impression que, vu depuis l'Europe, on regarde essentiellement ce qui se passe dans la côte est et un petit peu ce qui se passe dans la côte ouest. Et on sait que les deux côtes sont très favorables aux démocrates. Et finalement, lorsque vous avez le vote, c'est la partie centrale des États-Unis qui compte, et cette partie centrale est républicaine. Et elle a relativement peu d'accès aux médias, ce qui fait qu'elle est, en fait, dans les médias, relativement peu représentée. Ceci pourrait expliquer un peu la différence qu'on a entre les sondages, qui nous disent une victoire de M. Biden, avec, en fait, la réalité qui risque de se produire lorsque les votes vont apparaître.
Cette analyse, elle est aussi linguistique parce qu'on sait quelle thématique marche.
Tout à fait. On se rend compte de ce qui est porteur. Par exemple, le Covid. M. Trump essaye d'éviter d'en parler. On trouve le mot Covid ou bien pandémie à peu près dans 5% de ses tweets. Pour M. Biden, c'est pas béni. Il en a à peu près 13 à 14% de ses tweets où il insiste sur le fait que l'administration de M. Trump et le président ne sont pas capables de gérer cette pandémie. Ça pourrait être un avantage du côté démocrate.
Vous dites dans votre rapport qu'un message, peu importe s'il est juste ou s'il est faux, répété plusieurs fois, ça finit par atteindre les gens. Est-ce que c'est pas une vision un petit peu passive quand même de l'électorat américain ?
Je suis scientifique, je regarde ce qui se passe. Et on a analysé la campagne de 2016, beaucoup de personnes l'ont aussi faite, et se sont rendu compte qu'en fait, si vous répétez un message, même faux. Or, l'exemple qui a été pris, c'était le New York Times est porteur de fake news, d'un tox ou d'un fox. À force de répéter ce message, plus le même message de M. Trump par tweet est répété par des bots qui répètent ce message, les gens, et on a analysé, les républicains, sont seulement 8% à considérer le journal, le New York Times, comme source fiable de nouvelles.